carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Mirambeau.
Bienvenue dans le Carrefour des Arts. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le pape de l'histoire du théâtre musical mondial, monsieur Kurt Gunzel. Vous voyez, Kurt, je n'ai pas oublié le umlaut de votre nom. Et je vous remercie beaucoup de venir dans les studios de Canal Académie. Ça fait 15 ans que vous n'êtes pas venu à Paris. Et nous sommes très, très heureux et fiers de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, je commence immédiatement par un petit portrait de vous. Vous avez été tour à tour chanteur, acteur, puis casting director en Angleterre, à Londres, où vous avez organisé les distributions d'énormément de shows du West End. Puis, vous vous êtes lancé dans l'histoire du théâtre musical. Et là, vous avez réalisé une douzaine d'ouvrages qui font désormais référence, une douzaine d'ouvrages dont la liste se trouve sur le site de Canal Académie, avec les informations concernant cette émission. Et c'est parmi ces ouvrages remarquables qui font référence dans le monde sur le théâtre musical européen et américain, vous avez écrit une encyclopédie immense, une somme en trois volumes sur tout le théâtre français, allemand et britannique. Alors d'abord, évidemment, la curiosité me fait vous demander, est-ce que ça n'a pas été un travail monumental que d'établir cette bible de référence sur le théâtre chanté de divertissement mondial?
Ah, mais oui, tout à fait. Il fallait à peu près 10 ans pour faire les recherches et pour l'écrire. Mais j'avais la chance, je l'ai fait deux fois en effet, parce que c'est sorti à l'origine en 1994 en deux volumes. Et puis, ça a été repris en États-Unis et on m'a permis de le refaire en trois volumes avec beaucoup de choses nouvelles, bien sûr, mais aussi d'étoffer un petit peu les choses historiques où j'avais, depuis l'origine, j'avais trouvé beaucoup d'autres choses.
Alors, vous avez ouvert la voie, finalement, à toute l'histoire du théâtre musical dit populaire dans le monde, parce que vous avez eu et vous avez toujours beaucoup de suiveurs, de gens qui continuent de travailler selon les méthodes et les options que vous avez vous-même définies dans vos ouvrages.
Bah bon, je l'espère, parce que alors, quand j'ai fait tout ça, il y avait presque rien comme ça dans le monde du théâtre musical. Alors j'ai dû puiser dans les sources primaires. C'est pas parfait ce que j'ai fait. Il reste toujours à faire. Alors moi, je l'ai fait maintenant deux fois. Va venir, je crois, bientôt la troisième fois. Et là, pour la première fois, je crois que je vais déléguer un peu, parce que il y a des gens maintenant qui ont pris ce que j'ai fait. Ils ont puisé encore dans peut-être une partie de ce que j'ai écrit dessus. Surtout en Allemagne, où j'ai trouvé un héritier. Ici en France, où j'ai trouvé un héritier. Je cherche toujours en Angleterre, États-Unis, mais je suis sûr que je vais trouver quelqu'un de jeune qui a la même idée que moi. Alors, quand on puise dans une chambre un peu moins large, bien sûr, on peut trouver des choses que moi, j'ai pas trouvées. Je passe le bâton j'espère que les jeunes gens dans les années à venir vont avoir une troisième, quatrième, cinquième édition de cette œuvre, éventuellement sans moi.
Alors, quand nous avons préparé cette émission, je vous ai interrogé à propos de votre nouvel ouvrage qui vient de sortir à Wellington, parce que vous êtes néo-zélandais et vous habitez la Nouvelle-Zélande, et votre nouvel ouvrage est consacré à Emily Soldin. Je n'en dis rien pour l'instant parce que je veux que vous nous racontiez qui est Emily Soldin. J'étais très étonné parce que ce sont deux volumes impressionnants de 1500 pages chacun. Vous vivez en Nouvelle-Zélande. Comment avez-vous fait pour faire vos recherches? Et cet ouvrage a-t-il une histoire particulière?
Oui, c'est commencé quand je faisais mon premier livre, The British Musical Theatre, qui s'agissait seulement, bien sûr, des opérettes et comédies musicales britanniques. Et j'ai rencontré cette femme, et puis j'ai trouvé son autobiographie. Ah ben, c'était déjà fait, ben, il n'y avait pas besoin de le faire une deuxième fois, sauf que l'exemplaire que j'ai trouvé, ben, il y avait des petits griffonnages dans le marge. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en crayon, je pouvais les effacer. Et puis j'ai trouvé que mon exemplaire de ce merveilleux bouquin était la propriété d'un très, très, très grand critique, Clement Scott. Alors, et ce qu'il a écrit était un peu pour faire... Sourcier, c'est ça?
Sourcier, oui. il levait des lièvres, il posait des questions dans la marge de...
Voilà, mais il me dit, mais ça, c'est pas vrai. Ah, elle c'était une menteuse, etc., etc. Elle a terminé mal, etc. Alors, les petits sketchs des gens où Emily était un peu plus discrète. Alors, ça m'a bien sûr intéressé. J'ai puisé un tout petit peu. Et peu à peu, cette Emily Soldin a commencé à envahir ma vie. Et en 20 ans, j'ai continué à puiser à côté de mes autres livres. Et enfin, j'ai trouvé que ce qu'elle a raconté dans son bouquin, elle a pas menti. Mais comment dire, elle a manqué de dire des choses.
C'est ça, elle a amélioré la vérité.
Ah, elle a juste oublié de dire que son père était épigame et un tas de choses intéressantes. Alors, en fin de compte, 1500 pages, 1000 photos, c'est surtout une vista sur... l'opéra bouffe en Angleterre, 19e siècle, parce que ça, c'était l'opéra bouffe qui était la gloire d'Emily, et elle était la gloire de l'opéra bouffe anglophone, c'est-à-dire en Angleterre, puis en États-Unis, et après en Australie et Nouvelle-Zélande. Et elle a eu une carrière merveilleuse, c'était l'Otton Schneider de l'Angleterre.
Et pourquoi Emily? Parce que pour nous, les Français et le public francophone, c'est une parfaite inconnue et qui, quand on lit votre ouvrage...
Pas tout à fait, parce que j'ai pris hier soir un livre sur Offenbach de
Monsieur Jean-Claude Dion, oui.
Et là-dedans, il y a deux lignes où il écrit que Emily Soldin a été droguante dans Jean-Vier de Brabant à Londres, elle a été merveilleuse. Alors, elle a percé un tout petit peu en France. Mais bon, elle a jamais chanté en France, bien sûr.
Et c'est une artiste qui a eu une influence sur les œuvres qu'elle a chantées ou sur les compositeurs qu'elle a fréquentés?
Je crois pas, parce qu'elle a chanté presque toujours les œuvres françaises. Et elle a commencé avec La Grande Duchesse. Et puis après, c'était Chilpéric.
De Hervé.
Oui, et puis Le Petit Faust.
Toujours de Hervé.
Avec la même compagnie. Et puis après, le grand, c'était Geneviève de Brabant, qui reste toujours l'empire à bouffe le plus réussi en Angleterre.
Je vous propose, Kurt, d'écouter une fantaisie sélection vocale de Giroflée Girofla en anglais
elle a fait ça.
à partir de rouleaux qui ont été restaurés, de cylindres de phonographe qui ont été restaurés. Nous allons écouter cette fantaisie sélection de Giroflée Girofla de Charles Lecoq.
Volontiers.
Kurt, nous entendons cette fantaisie sélection de Giroflée Girofla en anglais. Et vous nous disiez juste avant que nous entendions cela que Emily avait chanté Giroflée Girofla.
Oui, elle l'a fait en Australie, en Nouvelle-Zélande et je crois après en États-Unis, mais pas en Angleterre parce que sa dauphine l'a chantée en Angleterre parce qu'elle n'était pas là, elle était en États-Unis en tournée. Mais elle a chanté des tas de choses. Vous savez, en Angleterre, en province, elle a été la première Carmen du Bizet. C'est-à-dire qu'elle était une vraie chanteuse.
Et pas simplement ce qu'on appelait alors une divette d'opérette.
Ah, tout à fait pas. Elle a débuté à Drury Lane comme Azucena.
Du coup, Kurt, outre vos travaux pour l'encyclopédie du théâtre musical, publié chez Gale à New York, vous a obligé à vous plonger encore plus dans les œuvres créées à Paris. Donc vous avez des compositeurs favoris et des envies et des passions sur certains ouvrages.
Ah, mais oui, si on me demande, et on le fait souvent, mes chansons préférées dans l'histoire du théâtre musical, je commence par dire pour moi, la meilleure tranche, c'était la France dans les années 20. J'adore ça parce qu'on a tout. On a un livre spirituel fabuleux. On a la musique qui n'est que les chansons parce qu'il y a les ensembles fabuleux, les quartets, les trios, les duets. Il y a tout. Hein. Et pour moi, c'est mon chant préféré, mais médaille d'argent, bien sûr, l'opéra bouffe.
L'opéra bouffe
française. Français, oui. Alors, ça fait 15 ans que je ne parle plus le français.
Oh, hein. Mais votre français est excellent, ne vous inquiétez absolument pas. Et dans le répertoire du 19e siècle, vous me parliez de Hervé, par exemple, grande figure justement de la fantaisie bouffe.
Oui, il a été un peu effacé par Offenbach, bien sûr. Mais en Angleterre, c'est Hervé qui a eu les grands succès au début de Chilperic en Angleterre. C'était énorme. Et Emily l'a joué pendant toute sa carrière, en travesti, bien sûr. Mais à l'origine, en Angleterre, c'était Hervé lui-même qui le jouait. Avant, elle l'a étudié et puis elle a un peu copié. Et on a dit au début, c'est un rôle tellement masculin qu'une femme ne peut pas le jouer, mais Emily l'a joué pendant 30 ans.
Et alors, justement, d'un point de vue anglo-saxon, la réception des œuvres françaises, comme ça, de répertoire de, on va dire, de demi-caractère, de divertissement, quelle a-t-elle été tout au long du 19e siècle et au début du 20e?
Ah bon, on a commencé en Angleterre dans les music halls. Où on a chanté des grandes sélections d'Orphée et des plus et des petites opérettes d'Offenbach, mais aussi les orgues dans la rue. On a joué bien sûr la musique française. Et puis dans les burlesques, on avait les partitions pasticcio et on a volé n'importe quoi depuis la France parce qu'à l'époque, c'était pour rien, on ne devait pas payer. On a commencé comme ça, et puis éventuellement, on a fait monter Orphée aux Enfers dans une version anglaise absolument horrible.
Parce que c'était plus du Meillac et Halévy, ni du Crémieux.
Non, parce que les Anglais n'ont pas compris. Ben, il n'y avait aucun terme de référence dans le théâtre anglaise pour opéra bouffe. Le livre spirituel et bouffe. Burlesque avec musique comme écrivait Hervé et Offenbach en Angleterre avec les trucs burlesques on avait les chansons populaires et un peu d'opéra mais toujours parodié. On n'avait pas besoin des gens qui pouvaient jouer la fantaisie et jouer la bouffe burlesque et aussi chanter très bien. Alors, il fallait, quand Offenbach et Hervé sont arrivés à Londres, il fallait trouver ces gens. Et c'est là qu'est arrivée mon Émilie, qui pouvait faire les deux. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la grande interprète en Angleterre de Offenbach et Hervé. Mais c'est la Grande-Duchesse qui a percé le premier, parce qu'en effet, on a bien choisi l'adapteur.
Oui.
Quelqu'un qui ne faisait pas les burlesques anglais assez low class.
Ah oui, de bas étage.
Voilà. Mais alors, quelqu'un qui pouvait traduire les choses spirituelles françaises.
Oui, parce que c'est vraiment la difficulté. Même dans l'opéra du 19e siècle, il y a des choses excessivement parisiennes, excessivement françaises. Mm-hmm. Alors, comment passe-t-elle auprès du cet esprit parisien, comment passe-t-il auprès du public anglo-saxon ?
Difficilement, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais enfin, avec une bonne traduction et une bonne mise en scène pour la Grande-Duchesse, la Grande-Duchesse a réussi. Et puis tout de suite, il y avait Gilles Perric, mieux fait, parce qu'il y avait Hervé lui-même, qui, je suis sûr, avait une main dans l'adaptation, et qui jouait le rôle. Et puis il y avait le petit Faust, qui n'était pas si réussi que Gilles Perric. Mais après ça, c'était le déluge.
Et le fait de travailler comme ça sur ces ouvrages, et ça vous donne pas l'impression d'avoir connu tous ces artistes ces auteurs et d'être très intime avec eux?
Ah oui, c'est pour ça qu'il y a 1500 pages dans l'Émilie, parce que il fallait bien sûr peindre un peu les décors derrière et les gens à côté. Alors il y a des petites biographies de tous ces compères et commères. Toutes les gens qui ont fait le tour du monde avec elle en 77, 78. Oh non, quand je commence quelque chose, c'est jamais facile. Hein.
Ce que je comprends, Kurt, je vous propose d'écouter un énorme succès français qui est devenu un énorme succès à Broadway et à Londres, je crois. Vous me corrigerez si je me trompe. Nous allons écouter dans sa version anglaise, toujours dans des restaurations de 78 tours enregistrées chez Brunswick en 1923, The Chimes of Normandy, les cloches de Corneville, de Robert Plunkett. Je vous propose d'écouter ces cloches.
Oh,
Nous écoutions la Brunswick Light Opera Company dans The Chimes of Normandy, qui est la version anglaise des cloches de Corneville de Robert Plunkett. Alors Kurt Gunzel, pendant que nous écoutions cette fantasy sélection qui reprend plusieurs thèmes et chansons de la pièce, vous me racontiez une anecdote concernant l'achat par les Anglais de l'opérette pour la création londonienne.
En Angleterre, c'était la production de monsieur qui s'appelait Alexander Henderson, qui était peut-être, enfin, après ça, il était le plus grand producteur de comédie musicale, d'opérette à Londres. Mais lui, tout le monde, bien sûr, quand les cloches a commencé à Paris, tout le monde a rué de l'autre côté de la Manche. Et lui, il est arrivé le premier, il est rentré dans la salle à mi-opérette. Il a entendu la chanson des cloches, il est sorti, il a dit « j'achète ». Alors, il l'a amené en Angleterre. Et les cloches de Corneville à Londres, c'était le plus grand succès de l'époque. Il jouait en même temps que HMS Pinafore. Et qui doit être le premier grand succès de l'opérette moderne anglaise. Mais les cloches a même plus réussi
que
HMS Pinafore. Eh ben, on jouait ça en province pendant 30, 40 ans. Je dois dire, malheureusement, que Émilie même l'a joué. Elle a joué Serre Paulette quand elle avait 40 ans et elle était assez grosse. Alors, c'était un peu trop tard, mais quand même, elle l'a fait. Elle l'a fait en États-Unis aussi, mais un deuxième rang de répertoire, disons.
Et alors, on oublie souvent, en France, on parle beaucoup d'Europe, etc. Mais finalement, la notion d'Europe et d'échange culturel à l'échelle européenne est une chose qui existe depuis fort longtemps. Par exemple, au 19e siècle, enfin au début du 20e siècle, en 1904, quand Paris monte une opérette américaine venue à Londres, puis ensuite transportée à Paris au Moulin Rouge, qui devient un immense triomphe parisien, une pièce qui s'appelle Belle of New York, la Belle de New York, que vous connaissez bien, Kurt.
Ah, mais oui, il y a plein d'histoires là aussi, parce que ça aussi, c'était presque un accident. Il y avait eu un producteur australien qui est venu à Londres avec sa petite amie pour en faire une grande vedette. Il a commencé, il a pris un théâtre, Shaftesbury Theatre, et il a monté une version anglaise tout à fait horrible de la petite mariée de Lecoq. Alors, naturellement, ça a fait four, et le monsieur, il avait sur ses mains le Shaftesbury Theatre. À quoi faire avec, parce que chaque semaine, ça coûtait de l'argent, etc., etc. Il fallait trouver quelque chose assez vite. En même temps, en États-Unis, il y avait une comédie musicale au Casino Théâtre, à The Belle of New York, qui faisait four. Et on l'envoyait à la campagne. Alors,
la campagne est en Boston, non?
Ah,
c'est
oui,
ça,
bah, Kurt. Oui. Bah, c'est pas New York, alors. et à Boston, ça allait un peu mieux. Et puis, on l'a fait à l'Australien pour le faire venir à Londres et boucher le trou. Il l'a pris, alors il l'a fait venir en Angleterre avec tous les artistes originaux.
Toute la compagnie, toute la troupe.
Il l'a monté au Shaftesbury Theatre. Et boum. Parce qu'à l'époque, l'Angleterre n'avait pas jamais vu ou entendu une comédie musicale américaine. Je crois qu'il y a beaucoup mieux, même à l'époque. Mais ça avait l'avantage d'être le premier. Alors, grand succès. Et bien sûr, les Français l'ont pris depuis... Depuis l'Angleterre, l'Hongrie aussi, je crois, etc., etc. Et quand après, les autres comédies musicales américaines sont arrivées, ils n'ont pas réussi parce que la nouveauté, l'effet de nouveauté était parti. Alors, la Belle de New York est arrivée au bon moment. Et puis après, on le jouait encore en province des années, et je crois même en Paris, il y a une reprise dans
en
les
1957,
années 50.
Oui, en effet, sous le titre La Belle de mon cœur.
Mais il y a beaucoup mieux, hein.
Oui.
C'était un peu la chance.
Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est de noter que au Moulin Rouge, quand ça arrive en 1904, c'est un triomphe absolu. Peut-être aussi parce que la pièce est assez calquée sur un modèle, on va dire européen français d'opérette, avec le personnage de la Belle, qui est finalement chez nous parisienne.
C'est une franche copie des comédies musicales de la Gaiety Theatre à Londres. Tout à fait une copie. Mais avec les paroles américaines, avec les manières américaines, avec les artistes américaines, et c'est ça la nouveauté. Même si si ça aurait été trop différent, je crois que peut-être que ça n'aurait pas réussi si bien. Mais je crois aussi que, pas en Angleterre, mais surtout en France, on connaît un peu la France, on l'a fait beaucoup plus grand. Une centaine de Corinne peut-être, etc., etc. Beaucoup opérait à grand spectacle. Hein.
Oui, absolument.
Ce qu'il n'était pas au début. C'était quelque chose d'assez petit. Parce que le Shaftesbury Theatre, c'est pas un grand théâtre.
Mais ça a été beaucoup élargi, je crois, pour le Moulin Rouge.
Je suis sûr.
Et le cadre, justement, très musical dans lequel ça a été créé. Kurt Gansel, je vous propose d'écouter quelques minutes de cette Belle de New York dans la version anglaise originale.
Oh, pas en français.
Kurt Gansel, après ces extraits de Belle of New York, je vous ai préparé quelques surprises, quelques petites raretés, dont je sais qu'elles vont vous réjouir et qu'elles vont réjouir nos auditeurs, des choses totalement inédites, tirées d'un concert de la Fondation Saint-Gerre-Polignac l'année passée. Je veux vous faire entendre un extrait de Yes de Maurice Yvain et un numéro interprété par Jérôme Pradon, qui est une star du West End londonien, mais qui est français. Il est relativement peu connu en France, mais extrêmement populaire et connu en Angleterre. Il est en train en ce moment de répéter la création mondiale du Seigneur des Anneaux, la comédie musicale d'après le film. Et il nous interprète cette chanson qui s'appelle « Deux pianos » avec l'ensemble derrière lui. Et les pianos sont tenus par Patrick Laviosa et Christophe Vallée.
Depuis Doucet et Pierre, nouvelle méthode, nouvelle mode, pour accompagner Mistinguet ou Chevalier, Harry Pisser, les Dolichistères. Il faut que l'on ait peau, que d'un piano, à présent de piano, c'est bien mieux carreau. Fond de piano, c'est plus nouveau qu'un piano.
N'est-ce pas? Est-ce la quintessence pour vous de l'esprit français, justement, de cette période-là? Parce que cette chanson est une chanson qui joue de la convention, d'une part parce que Yes est une pièce écrite, justement, non pas avec orchestre, mais avec deux pianos. Oui. Et c'est une chose mise à la mode par Wiener et Doucet, les deux fameux grands pianistes improvisateurs, et qui évoquent Mistinguett, Chevalier, Harry Pilser, grand danseur-chanteur, les Dolly Sisters, bien sûr, qui ont joué dans ces chantés avec les deux pianos de Wiener et Doucet et qui représentent peut-être un certain style années 20.
Oui, mais comme je crois que j'ai dit déjà, pour moi, ben, j'adore ça, mais dans les comédies musicales françaises de l'époque, il y avait tout. C'est la seule fois, je crois, dans l'histoire de théâtre musical où sont venus ensemble un texte qui aurait été joué sans musique, parce qu'il était tellement bon comme comédie, avec une musique qui mélangeait le chanson et, presque la classique, écrite par les gens qui pouvaient faire des symphonies s'ils voulaient, mais qui pouvaient aussi écrire une chanson populaire.
C'est l'alliage de la musique savante et de la musique
absolument.
Pour tout le monde, on va
absolument,
dire.
Absolument, oui. Et puis, les livrets sont tellement spirituels et tellement... je manque le mot sexy, voilà.
Justement, nous allons parler de ce point, de ce mot sexy, juste après cet extrait nouveau, encore une autre rareté non entendue depuis la création. Je vous propose un air d'Arsène Lupin, banquier, de Marcel Lattès, qui est un compositeur tout à fait intéressant, extrêmement oublié malheureusement de nos jours, chanté par le ravissant ténor Vincent Eden, toujours à l'occasion de ce concert consacré à la comédie musicale d'entre-deux-guerres à la Fondation Saint-Gerre-Polignac.
faut être bien mis. On fait bien meilleure figure quand on a de beaux habits. Fixez donc un peu le chic de mes gants et le chic de ma jaquette. C'est chouette d'être un monsieur. Fixez donc mes beaux vernis, mon grimpon de chéri. Fixez mes chaussettes et cette perlouse de gris. J'ai de beaux caleçons, c'est pas en coton qu'ils sont. Fixez donc ma batte, cravate de Pygmalion. Suffit pas d'un mot complet, faut aussi de belles manières. Et comment que moi je les ai. Visez donc un peu ce petit jus que j'ai quand je tire ma cigarette. C'est chouette d'être un monsieur. Visez donc un peu ce maintien en marchant, ce que je l'avoue bien. J'ai-t-il la prestance, l'essence, le chic parisien.
Alors c'était un extrait d'Arsène Lupin-Banquier de Marcel Lattès, chanté par Vincent Eden à la Fondation Saint-Germain-Polignac. Kurt, je crois que c'est la première fois que vous entendez cet extrait.
Oui, tout à fait.
Parce que il est effectivement très très rare d'entendre désormais de la musique de Marcel Lattès. Alors cette musique est à la fois savante, le texte est savant et populaire parce qu'extrêmement bien écrit, mais on entend merde dans le texte de la chanson par exemple, et fait appel à des mots comme ça du quotidien, et en même temps c'est très sexy, et le mot sexy que vous avez juste évoqué avant qu'on entende cet extrait m'interpelle, et je voudrais que vous nous le définissiez par rapport justement à cette comédie musicale française.
Oh mais oui, ben c'est la raison pour laquelle cette merveilleuse ère de comédie musicale ne s'est jamais exportée. Parce que les Français, ben, je sais pas, c'est toujours comme ça, mais à cette époque-là, on osait faire les choses et dire les choses en France, dans le music hall, dans les comédies musicales, qui passaient pas en Angleterre, par exemple. Ah ben non, ah mais non. Il y a madame là dans la salle, et, ben, il faut pas qu'elle entende les choses comme ça. Hein. Alors, ces merveilleux trucs, ben, par exemple, Fifi.
Oui,
le grand-père de tous les comédies musicales.
Oui, Fifi, créé à Paris en 1918,
voilà.
Où tout à coup, on se met à parler ouvertement, on va dire, de fesses.
Il y a même un petit peu de nudité, bien avant Hair. Mais bon, Fifi a été jouée en Angleterre, Fifi a été jouée en Allemagne, en États-Unis, à l'Hongrie. Il a fait four partout. Parce qu'il fallait réécrire, parce qu'il fallait rayer tout qui était sexuel. Oui. Alors, Fifi sans sexe, alors il n'y a plus de pérette. Hein.
Et pour, je crois que pour la version créée en 1922, je crois, au Pavilion Theatre à Londres, d'après vos travaux, je sais maintenant qu'il y a eu des tas de numéros rajoutés, choses qui n'avaient rien à voir ni avec la musique originale, ni avec le texte.
Même le plot
a été changé. Oui.
Non, c'était pas Fifi alors.
Ça veut dire que nos comédies musicales ne sont pas exportables ?
Pour l'étranger, mais il y a toujours ce problème qu'il trouvait assez spirituel pour être le Willamette anglais. Mais c'est difficile. Il y a moi, bien sûr, mais moi, j'ai pris la retraite.
Noël Coward, mais il est décédé.
C'est toujours difficile parce qu'avant, on ne pouvait pas dire ça. Maintenant, on peut le dire, mais le dire avec le même esprit que Willamette, pas facile.
Hélas, faut-il si tôt que mon bonheur se perde. Aspasie est outrée et m'a répondu non. Mais j'avoue que ce non paraissait avoir l'air de venir du fond du cœur et ne sentait pas bon.
Ne vous en faites pas,
Mais quel est ce jeune homme? Voilà, monsieur vient comme modèle. Ah, je m'explique. Dans ce cas-là, jeune homme, ôtez votre tunique.
Que dit-il?
Il vous dit simplement de quitter votre vêtement pour admirer votre plastique.
Pour avoir ma plastique, assurément, ça c'est charmant. Je vais ôter mon vêtement.
Venez, mes demoiselles, voir un nouveau modèle.
C'est un modèle, la ligne est belle. Micro, micro, il est plutôt costaud. Mais il me semble que dans l'ensemble, ce jeune homme a tout ce qu'il faut.
Il pourrait faire, je crois, l'affaire.
Il est charmant, tu as sûrement raison.
Je suis mes belles, nouveau modèle, dernier cri de la saison. Est-ce pour poser un lutteur? Nul besoin d'artifice. J'ai des membres à la hauteur. Lequel faut-il que je raidisse?
Non, je cherche un modèle pour une chose moins ordinaire. Si je vous prends, c'est pour faire.
Quoi?
Faire.
Quoi?
Faire l'amour.
Ça c'est unique et très comique, ce brave mari qui me choisit pour que je fasse, ça c'est cocasse, oui pour que je fasse l'amour. Ça c'est unique et très comique, ce brave mari qui me choisit pour que je fasse, ça c'est cocasse. Eh bien, sans me vanter, je crois avoir toutes les qualités.
Ah, eh ben voyons ça, mon ami.
Sans le faire à la pause, je vous déclare que j'ai pratiqué déjà toutes les poses que l'on connaît à ce sujet. Et je crois pouvoir dire, chacun sa prétention, que toutes les fois je m'en tire en donnant pleine satisfaction. Pour l'amour, je me crois des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me sens tellement en effet. Fait pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour.
Pour l'amour, il a des dispositions. À ses rêves, il prit des leçons. Il a la même à Singapour. Pour l'amour, il est tellement en effet fait. Pour nous plaire, il veut faire nuit et jour l'amour.
Eh ben, ça ne me paraît pas mal du tout, hein, non?
La chose très délicate, c'est d'attraper le mouvement. En quatre temps, moi je me flatte de bien le prendre immédiatement. Et quelle que soit la tâche, une fois que j'y suis, soyez sûr que jamais je ne lâche le travail que j'ai entrepris. Pour l'amour, je me crois des dispositions. À Citer, j'ai pris des leçons. Je suis même allé à Singapour. Pour l'amour, je me sens tellement en effet. Fait pour vous plaire, je veux bien faire nuit et jour l'amour.
Pour l'amour, il a des dispositions. À Citer, il prit les leçons. Il a la même à Singapour. Pour l'amour, il est tellement en effet fait pour nous plaire. Il veut faire nuit et jour l'amour.
Ma
Maintenant, dites-moi, jeune homme, quel est votre nom? C'est l'habitude de la maison.
Cher monsieur, je me nomme simplement Hardimédon. De tant d'honneur, je suis confus, mais croyez-moi, mesdemoiselles, je ne suis qu'un simple modèle et n'ambitionne rien de plus.
Tant mieux, je crois qu'il est modeste, je le paierai meilleur marché.
C'est parmi nous qu'il reste, on va le déboucher.
Kurt Gunzel, je vous remercie beaucoup d'être venu dans nos studios et je vous propose une petite dernière rareté pour achever cette émission. Je vous propose un extrait de Azor, l'ensemble des cambrioleurs, Azor de Gaston Gabaroche, chanté encore à la Fondation Saint-Gerre-Polignac en avril 2006.
La chose est capitale, c'est de ne pas laisser d'empreintes.